Bonjour, frères et sœurs, vous allez bien? Je vais être le premier à utiliser la clé HDMI sur l'ordinateur. Si ça ne fonctionne pas, c'est Daniel qui est le responsable. Bon, ça y est, ça fonctionne. Bon, j'aurai rien à dire contre Daniel, malheureusement. OK. Tu m'encourages, Daniel? C'est bien. Bien, je réalise qu'on a quand même... j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps. La dernière fois que j'ai donné cette prédication-là ailleurs, ça dépassait un peu ce temps-là. Donc, si je départ, je vous demande votre clémence au départ. On fait ça au début, comme ça, c'était réglé. Non, je vais essayer d'être le plus bref possible. La souffrance. Qui veut en entendre parler de la souffrance? Pas grand monde qui veut en entendre parler. On veut entendre parler des belles choses, des bonnes choses, mais entendre parler de la souffrance, c'est quelque chose qu'il faut parler, par contre. C'est quelque chose avec lequel il faut être au clair avec ça. Dans le titre du message, y a-t-il une solution à la souffrance? Comme si la souffrance était un problème. Oui, c'est effectivement un problème, mais c'est autre chose aussi. Et qu'est-ce qui m'a mis un peu sur la voie? C'est deux notions que Charles Spurgeon avait lancées. Il disait, un chrétien éprouvé porte plus de gloire à Dieu que celui qui vit dans une vie sans épreuve. Et il disait aussi, je pense dans mon âme, que le chrétien en prison pour sa foi reflète plus de gloire à son maître que celui qui est au paradis. Donc, la souffrance a vraiment une utilité, a une raison d'être. Et le texte que nous allons voir ce matin dans 1 Corinthiens 10, 13, nous parle de la souffrance et de la tentation et de l'épreuve. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà le texte de base. Voilà le texte sur lequel je vais m'appuyer pour emmener toute la prédication. Deux mots sont importants que j'ai ressortis dans ce texte-là. Deux mots dans l'original. Dans l'original grec, le mot « tentation », qui est traduit par « pierasmo », c'est-à-dire dans le texte original, c'est « pierasmo », une épreuve, une tentation, dans le but et avec un effet bénéfique. C'est déjà positif. Et pourtant, le même mot « pierasmo » est utilisé par Paul lorsqu'il parle dans l'Évangile aux Galates. Lorsqu'il dit aux Galates « cette infirmité » que j'avais dans mon corps, cette tentation de la chair, et il parle de pierasmo. On croit que Paul avait des problèmes avec ses yeux. Qu'est-ce qu'il avait aux yeux, on ne sait pas, mais il avait des problèmes avec ses yeux, c'était vraiment une épreuve. Et Paul disait que c'est une pierasmo, une tentation, une épreuve, une infirmité de son corps. Et cette infirmité-là, Paul disait que c'était quelque chose qui était pour avoir un effet bénéfique pour lui et pour ceux qui l'entourent. Deuxième chose, le mot « supporter » à la fin du verset, « afin que vous puissiez la supporter ». Nous, dans notre imaginaire, on voit plutôt aussi le moyen d'en sortir. Ça, on voit un gros flash là-dessus. On veut s'en sortir de cela. Mais la parole de Dieu dit « afin que vous puissiez la supporter ». Et le mot « supporter » est « upophero ». Upophero, qui est une qui portait la tentation, portait l'épreuve, tout en étant dessous, tout en étant sous son poids. C'est-à-dire que s'en sortir, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'épreuve. Ça veut dire être capable de la supporter, être capable de la porter malgré le poids qu'elle a. Donc, deux choses de laquelle on veut parler aujourd'hui, les bénéfices de l'épreuve et le moyen de la supporter. On peut englober tout sur la souffrance. On peut parler de toute espèce de souffrance confondue. Je souffre à cause d'un autre, je souffre à cause de moi, je souffre à cause que je ne sais pas pourquoi. Je souffre à cause d'une maladie à laquelle je n'ai jamais cherché. Je souffre à cause d'une maladie. Ouais, je le sais, parce que je mange trop de rôti de lard le soir avant de me coucher. Et ainsi de suite. Toutes sortes de souffrances. Et il n'existe pas de réponse complète à la souffrance. Vous pouvez me demander à moi pourquoi je souffre. Je pourrais vous dire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de réponse complète à la souffrance. On peut juste constater que c'est le lot de tout homme, de la naissance jusqu'à la mort. C'est le lot de tout homme. Toute personne ici présente a un jour souffert. Et toute personne ici présente va un jour souffrir dans le futur. Peut-être que nous connaissons ce que la Bible dit à propos de la souffrance. Ou peut-être que l'on ne connaît pas ce que la Bible dit à propos de la souffrance. Mais peu importe, la difficulté de la souffrance est dans l'application. Et l'exemple est simple. Je sais ce que c'est que la perte d'un être cher. Je le sais théoriquement. Je peux lire des choses, j'ai vu des choses, des personnes qui ont perdu un être cher et ils ont beaucoup souffert, en tout cas, ils ont beaucoup pleuré et ils sont même très affligés pendant nombre d'années. Mais j'ai beau tout savoir, ce n'est pas lorsque moi je vais perdre un être cher et là, la souffrance va vraiment passer de la théorie à l'application. Et c'est là qu'est le problème, la souffrance. Lorsqu'elle s'applique à nous. Ce n'est pas de savoir, c'est de le vivre. Je crois que le problème n'est pas la souffrance. Le problème est la gestion de la souffrance. Comment est-ce qu'on gère la souffrance? Comment est-ce qu'on est capable de vivre avec? Et c'est là que le bât blesse. La souffrance, c'est un grand sujet dans la Bible, présente d'un couvert à l'autre. On peut voir toutes sortes de souffrances de toutes sortes de manières. Dieu la mentionne, Dieu l'explique. Le verset que nous avons lu à notre départ nous permet de voir que Dieu la permet, Dieu la contrôle, Dieu la calibre et Dieu la solutionne aussi. Il ne la solutionne pas peut-être comme on souhaite, nous, qu'on voudrait qu'elle soit solutionnée. Mais Dieu, il désire la solutionner et il va toujours le faire à l'intérieur de son amour. Dieu solutionne la souffrance. Un aspect de la vie aussi omniprésent dans nos vies ne doit pas être pour notre malheur tout le temps. Ça ne doit pas être vraiment juste pour notre malheur. On a peut-être à changer notre manière de voir, notre manière de vivre la souffrance. C'est quoi le comportement que l'on a lorsqu'on souffre? On s'apitoie sur notre sort. « Ah, pauvre de moi, pourquoi moi? » Ou on s'isole parfois. On va s'isoler, on ne veut pas manifester notre faiblesse aux autres. Souffrir, parfois, ça peut être quelque chose qui fait une empreinte sur notre orgueil. On ne veut pas montrer, on est plus fier que ça. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Il n'y a rien qui fait mal. Pourquoi? Parce que je suis fort, je suis surtout orgueilleux. On peut voir notre vision dramatique du futur. Je vais vivre une grippe d'homme et puis je vais la vivre toute ma vie. On ne voit pas l'issue. Une vision dramatique de notre futur. Vous êtes d'accord avec moi que la souffrance n'est pas une partie de plaisir. Dieu ne nous demande pas de sauter de joie lorsqu'on souffre. Mais certaines leçons se comprennent par la souffrance. Et la première chose que l'on constate, c'est que nous devons... Quel est le but de Dieu pour celui qui souffre? Le but de Dieu pour celui qui souffre, c'est que Dieu ne travaille pas pour notre confort et pour notre aisance, mais Dieu travaille pour notre croissance et notre sanctification. Dieu ne focus pas sur le fait qu'on soit les mieux nantis, les mieux gardés de la maladie, les mieux ci, les mieux ça, mais il veut que l'on grandisse en lui et il veut qu'on soit plus saints d'une fois à l'autre. Et Dieu cherche notre sanctification. Comment est-ce qu'on entreprend? La première chose que l'on doit faire au niveau de la souffrance. Tout d'abord, on doit reconnaître la souveraineté de Dieu dans la souffrance. C'est le premier pas sur le chemin de la compréhension de la souffrance. Laissez-moi vous citer M. McCartney, qui disait « Si nous ne reconnaissons pas la souveraineté de Dieu dans la souffrance, alors la souffrance devient un mal dénué de toute utilité. Le fait de reconnaître la souveraineté de Dieu, aussi bien dans la souffrance que dans la bonne santé, transforme notre compréhension de la souffrance comme étant une chose qui, bien que tragique, a également un but. Un mal qui est d'une certaine manière nécessaire pour notre bien. » Et M. McCartney ne fait que citer le fameux verset que j'ai de la misère à lire lorsque je souffre, « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Ah ouais, j'ai mal, puis ça concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même si je ne comprends pas le verset, je sais qu'il est là. Et il faut juste comprendre que, à quelque part, Dieu a une raison d'avoir mis la souffrance au monde. C'est la différence majeure. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est la différence majeure entre celui qui a donné sa vie à Dieu, le chrétien, et le non-chrétien. Admettre la souveraineté de Dieu, faire confiance à Dieu. Le raisonnement du chrétien est que toujours, toujours, Dieu sait ce qu'il fait. Le contrôle de Dieu est total sur la souffrance. On peut voir la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. On voit à l'opposé, la lumière, les ténèbres, la prospérité, l'adversité. C'est Dieu qui permet cela. Ça fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Si on a ce Dieu-là dans notre vie, nous devons admettre que Dieu permet la souffrance. Mais si Dieu permet la souffrance, il n'est pas indifférent à cette souffrance. Dieu n'est pas étranger à cela. Et Dieu va nous dire aussi dans d'autres endroits de sa parole, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Dieu sait exactement ce que nous vivons. Et il sait combien de fois nous allons le vivre et de quelle manière nous allons le vivre. « Je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu veut ranimer de la souffrance. Il veut que l'on soit dépendant de lui. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Dur à comprendre. Comment ça se fait que Dieu aime cela? Y es-tu maso? Non, mais il a une leçon à nous faire comprendre. Si Dieu permet la souffrance, c'est qu'elle a un but. Et nous parlons ici de toutes sortes de souffrances. Qu'elle soit due à notre péché ou au péché d'une autre personne, qu'elle soit justifiée ou qu'elle soit totalement injuste, Dieu l'utilise pour changer notre attitude, pour changer notre caractère et pour la bénédiction des gens autour de nous. Rappelez-vous Joseph, lorsqu'il a dit à ses frères dans Genèse 50, au verset 20, il dit « Vous avez médité de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et pourtant, si vous vous rappelez la vie de Joseph, il a passé des années en prison. Il a été accusé faussement de fornication. Il a été vendu comme esclave par ses frères. Et pourtant, il se permet de dire « Dieu l'a changé en bien, même s'il a souffert. » On est tous d'accord que les souffrances de Christ ont atteint leur but. Ils ont permis de régler le problème du péché et d'établir un lien avec nous. C'est ce que Christ est venu faire sur la croix. Si les souffrances de Christ n'avaient rien accompli, on ne serait pas ici aujourd'hui. Probablement que cette salle-là serait juste une grande salle pleine de tables pour jouer au crib ou jouer au bridge ou quelque chose comme ça. C'est pour autre chose qu'on est ici. Christ a vécu tous les aspects de la souffrance, et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Dieu a appris par la souffrance des choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Je me suis repris, j'avais mal cité le verset. Comme le Fils, comme Jésus, nous avons à apprendre de la souffrance. Nous avons quelque chose à apprendre. Dieu lui-même a appris par la souffrance, a connu la souffrance et l'a expérimenté. Et c'est pour cela qu'il peut comprendre notre souffrance. Et nous savons que cette compréhension-là est une vraie compréhension, c'est véritable. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec notre souffrance et nous lui disons, « Seigneur, ça fait mal! » Il peut nous dire, « Je le sais, je le sais, je le sais que ça fait mal. Je l'ai vécu moi aussi. » Je m'excuse. Le premier bénéfice que l'on voit, la souffrance tisse des liens. Dans 1 Corinthiens 12:26, il nous dit, « Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » La souffrance produit une solidarité dans les gens. Les personnes qui ont souffert comprennent mieux la souffrance des autres. Les personnes qui ont vraiment vécu la souffrance sont capables de s'approcher des autres en disant, « Oui, je sais ce que tu souffres. Je sais que ça fait mal. » Un des facteurs clés de l'unité de l'Église est le partage de la souffrance. On ne devrait pas être seul dans notre souffrance. On ne devrait pas vivre cette souffrance-là seul. Si on partage les bénédictions, comme on l'a fait ce matin, on devrait aussi partager nos souffrances. Cette méditation sur la souffrance m'a fait réaliser quelque chose. Me fait réaliser que je ne prie pas suffisamment pour les autres. Et surtout, je ne prie pas suffisamment avec les autres. En premier, mes frères et mes sœurs en Christ, dans ce qu'ils vivent. La compassion, l'accompagnement dans la souffrance n'enlève pas la souffrance aux gens. Ce n'est pas ça qu'elle fait. Mais elle permet un répit, elle permet une trêve. On sait tous ce que ça fait de savoir que quelqu'un prie pour nous, pour nos souffrances. Ça nous donne un baume, ça nous donne... J'entends souvent les gens, quand je dis « je prie pour toi, pour ce que tu vis », Ah, je te remercie, ça me fait du bien de le savoir. Ça me fait du bien de savoir que quelqu'un dans sa chambre, quelque part, qui prie. Mais ça fait encore plus de bien de savoir que la personne prie avec moi, tout de suite, présentement. Lorsque le Seigneur nous dit de prendre la charge des uns des autres, lorsqu'il nous dit, il nous dit dans Galates 6:2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un arrive avec ton fardeau, tu dis « OK, mais allez là, mais que je m'en aille tout à l'heure, je vais le prendre. » Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Porter, ça veut dire tout de suite, présentement, je le prends ton fardeau. Lorsque tu m'expliques ce que tu as mal, je vais le prier avec toi. Puis je vais revenir la semaine d'après ou deux semaines plus tard pour dire « Comment ça va ton fardeau? » Je vais m'occuper de ton fardeau. Je vais le porter avec toi. Je vais le prendre immédiatement et faire un bout de chemin avec la personne qui souffre. Ici, dans cette assemblée, vous avez des anciens qui sont prêts à prier pour vous. À la fin de cette prédication, que les anciens soient assis en avant. Et je rajoute Michel Penneau en plus. Tu n'étais pas supposé le faire, mais tu vas le faire un matin. Les anciens qui sont présents dans cette salle, vous pouvez venir vous asseoir en avant durant la prédication. Et ils voudraient, ces anciens-là, porter votre fardeau avec vous. Peut-être que ça fait longtemps que vous portez ce fardeau-là. Ça fait longtemps que les anciens le savent. Mais aujourd'hui, présentement, vous avez le goût, vous avez le besoin que quelqu'un porte le fardeau avec vous. Les anciens vont le faire ce matin. Ils veulent prier pour vous, les anciens, mais ils veulent surtout prier avec vous. aujourd'hui, présentement, mais s'il vous plaît, attendez juste la fin de la prédication. Juste ça. Donc, les anciens vont être assis en avant et ils vont pouvoir prier pour vous. Ils vont pouvoir prier ce que vous allez apporter, même si c'est anodin pour vous, même si c'est quelque chose qui, ouais, mais c'est juste un petit peu, c'est pas grave. Les anciens veulent prier pour vous, puis ils veulent continuer à prier pour vous. Ce ministère est pour tout le monde. Il est premièrement pour celui qui souffre, pour celui qui voit la personne qui souffre, d'aller vers les personnes qui souffrent. Ce ministère est d'abord pour ceux qui vont vers ceux qui souffrent, mais il est aussi pour celui qui souffre, d'aller vers une personne de confiance pour prier avec lui. Lorsque votre fardeau est trop pesant à transporter, lorsque ça vous est arrivé de déménager à quelque part à un moment donné, puis lorsque vous arrivez devant le frigidaire, puis vous dites, il faudrait bien que je déménage le frigidaire, est-ce que vous allez vous éreinter à le déménager tout seul? Non, tu vas appeler ton beau-frère, tu vas appeler quelqu'un d'autre, tu vas appeler quelqu'un qui est assez fort pour le déménager avec vous. Vous ne prenez pas physiquement des poids trop pesants pour vous. Ça devrait être la même chose pour la souffrance. Vous ne devriez pas prendre des poids trop pesants pour vous tout seul. Appelez quelqu'un. Même durant cette semaine, si vous dites le lundi, je vais appeler un ancien parce que je vis quelque chose de difficile, parce que je veux qu'il prie avec moi, et il pourra le faire. N'hésitez pas à partager votre souffrance, car la souffrance tisse des liens. Le deuxième point, la souffrance qui est un remède au péché. Parfois, Dieu permet la souffrance pour un problème de péché dans nos vies. Et lorsqu'on lit 1 Pierre 4, verset 1 jusqu'au verset 3, il dit « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Et j'ai une question pour vous. Celui qui a souffert dans la chair, c'est qui ça? De qui parle-t-il là? Tout le monde pense que c'est Jésus. D'après le texte, on pourrait dire à la première lecture que c'est Jésus. Mais est-ce que Jésus a vécu selon la chair? Est-ce qu'il a vécu en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie? Ce n'est pas Jésus qu'il est question ici. C'est de tout et chacun. C'est de tout le monde qui passe par la souffrance, qu'ils puissent, à quelque part, s'arrêter, qu'ils puissent dire, quelque part, « Je souffre, pourquoi? » Et si mon péché m'a amené à souffrir, et si parce que j'ai tué quelqu'un parce que je roulais trop vite sur l'autoroute, je vais-tu ralentir la prochaine fois? En fin de compte, souffrir est un remède au péché, et notre remède au péché. Et tout homme qui a connu la souffrance et qui en a retenu une leçon, ce n'est pas tout de connaître la souffrance, c'est d'en retenir une leçon. Lorsqu'il dit dans 1 Pierre 4, 19, un peu plus loin, je ne l'ai pas écrit sur le tableau, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes aux fidèles. » Celui qui souffre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous méditons sur nous-mêmes, lorsque nous rentrons en nous-mêmes et nous disons, à quelque part, si je souffre à cause de ce péché-là, je ne devrais plus le faire, ce péché-là. La souffrance est un remède au péché. Il va nous dire que toute souffrance nous identifie à lui. Celui qui souffre s'identifie à Christ. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lorsque Christ a souffert, il nous a montré quelque part que la vie chrétienne, et même la vie dans le monde, est une vie de souffrance. Cela a été le quotidien de Paul. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les jours, Paul s'attendait à souffrir. C'est le lot normal. Et il veut nous dire, ne soyez pas surpris Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire paraîtra. Hein? Je souffre. Ah ben! Mon voisin, oui, mais pas moi. Pas se surprendre de souffrir. Un autre bénéfice, la souffrance est porteuse d'espoir. La souffrance n'est pas une fin, mais la souffrance est un processus et son but est notre consolation et celle de ceux qui nous entourent. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 5 à 7 et dans ce verset-là, il place le mot souffrance et consolation dans la même phrase, dans le même verset. Souffrance et consolation. Christ a souffert et il a ressuscité. Et nous prenons le même chemin qui mène à la même place. Et Paul va dire dans 2 Timothée qu'il a été délivré de toutes les persécutions par le Seigneur. Dieu invite les chrétiens de la Odyssée à tenir bon dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père et sur son trône. Celui qui souffre a une place. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous dans Romains 8. Nous acquérons un héritage qui dépasse tout entendement, un héritage céleste. Et cet héritage-là, c'est la gloire de Dieu sur nous. Lorsqu'on vit des temps difficiles, notre vision devient plus courte. Mais nous perdons la perspective de Dieu. Notre chemin d'épreuve est la preuve d'un lendemain meilleur. Il a fait le même parcours. Dieu a fait le même parcours que nous et il attend et nous attend dans sa gloire. Colossiens 3:4 nous dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » C'est beau tout ça. Voici les beaux bénéfices, mais comment se vit la souffrance? Comment est-ce qu'on peut vivre ça? C'est pas facile à vivre. On peut tomber en dépression à cause de la souffrance. Il peut arriver une autre sorte de choses à cause de la souffrance. On ne peut pas ignorer la souffrance, ça s'appelle le déni. On peut chercher à découvrir pourquoi je souffre. Est-ce que je suis responsable de ma souffrance? Mais même si cette souffrance-là est injuste, comment est-ce qu'elle peut donner gloire à Dieu? De toute manière, vivre la souffrance, c'est difficile. Et au-delà du pourquoi qu'on souffre, il y a le comment. Acte 14, 22, Paul fait mention que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas nécessaire de se promener la tête entre les deux jambes. Ce n'est pas de s'infliger des tortures comme les moines faisaient anciennement avec des fouettes puis se fouettaient pour faire pénitence. Ça n'a aucun lien. Ce n'est que pour nourrir l'orgueil et la valeur, sa propre valeur. Ça n'a aucun lien. Ça ne sert à rien de souffrir. Christ n'a pas pris plaisir à la souffrance. Il ne l'a pas recherché non plus. Il a même cherché à l'éviter. Mais sans qu'il s'en soit dérobé, il a subi ce qu'il avait à subir. Il a assumé ce qui était nécessaire d'assumer. Christ a souffert d'une manière particulière. Lorsqu'il était au plus fort des souffrances au jardin de Gethsémané, il a été honnête envers son Père. « Je ne veux pas vivre ça. Éloigne de moi cette coupe. Je ne veux pas la vivre. » Et combien de fois qu'on dit ça au Seigneur? « Je ne veux pas vivre ça. » Et on est honnête devant Dieu. Mais voilà, Jésus a reconnu la souveraineté de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a reconnu la souveraineté de Dieu. Et dans son agonie, il a exprimé son angoisse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il l'a exprimé. Ce n'était pas une phrase toute faite. Ce n'était pas un scénario avec une ligne de texte qu'il devait lire. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit, ce qu'il il a vécu avec ses tripes, avec ses émotions. Il l'a vécu profondément. Ça a été sa réalité. Ça a été son cri du cœur. Jésus a fait ce qu'il avait à faire dans sa souffrance. Et il l'a exprimé avec des mots à son Père qui vivait. Ce qu'il vivait. Dieu sait ce qui signifie souffrir. C'est pourquoi il a inspiré beaucoup d'hommes dans la parole. Les psaumes, entre autres. Des hommes, des psalmistes ont exprimé leur souffrance d'une manière à la supporter. Autant pour Jésus que pour les psalmistes, il est important de le verbaliser. La meilleure lecture que l'on puisse trouver, c'est dans les psaumes. Et j'aimerais vous citer Philippe Yancey sur les trois situations qui accompagnent souvent la souffrance. La peur, le désespoir et la solitude. La peur qui dévaste l'esprit. Le désespoir qui amène une personne à abandonner. Ou la solitude qui est une situation déplorable. Dans la souffrance, et parfois la souffrance augmente la solitude. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous dit que trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et c'est la réponse que Dieu donne à ces choses-là. À ses peurs, ses désespoirs et ses solitudes. La lecture des psaumes nous montre des hommes qui vivent des souffrances, qui ont trouvé leur réconfort. J'aimerais vous parler, premièrement, de la foi qui est la réponse à la peur. Le psaume 13 exprime ce que plusieurs se disent dans la tourmente, « Jusqu'à quand, Éternel? » Et c'est un petit psaume que l'on peut lire. On ne pourra pas tous les lire parce que le temps manque. Mais j'aimerais vous lire le psaume 13, s'il vous plaît, qui, 6 versets, qui nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas au sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans ton cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Souvent, on ressemble à ce psalmiste-là. Jusqu'à quand, Seigneur, je vais vivre cette souffrance-là? L'inconnu nous fait peur. On a une fausse impression d'être abandonné de Dieu. C'est ce que l'on ressent. Notre principal souci, notre principal fardeau, c'est le chagrin de notre cœur. Mais la fin devient un cri de victoire. Le psalmiste place devant Dieu, « Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. » Il met en mots ce qu'il vit. « Réponds-moi. » Il peut confier ses pensées, ses paroles à Dieu. Ces lignes étaient écrites pour être citées à haute voix. Et au début, il dit « Au chef des chantres, psaume de David. » Le chef des chantres, c'était un psaume qui devait être chanté. Il devait être chanté en public. Donc, les personnes pouvaient l'exprimer verbalement. Et le psaume 13 ne fait pas exception. Lorsqu'on vit ce genre de situation et que l'on lit à haute voix, c'est tout autre chose. C'est un autre aspect. On parvient à voir la souffrance du psalmiste qui peut se comparer à la nôtre lorsqu'on le lit à haute voix. Est-ce que vous arrive de lire la parole à haute voix, seul chez vous parfois, peut-être même avec votre mari si vous entendez avec, que vous lisez à haute voix sans passer pour un fou ou une folle? Ça m'est arrivé une fois, je suis parti en voyage avec mon épouse un bon bout de temps, puis je me suis rendu 2 jours de voyage, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié ma Bible. On avait une seule Bible. Et là, on était rendu dans des places où c'était juste en anglais, et je ne lis pas la Bible en anglais, à moins de profondeur pour moi. Donc, on n'avait qu'une seule Bible. pour qu'on la lise tous les deux, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'une journée, tu vas la lire à haute voix. Le lendemain, c'est moi qui vais la lire à haute voix. Et ça l'a changé complètement, ce que mon épouse lisait avait un autre impact. Je l'entendais avec mes oreilles. Et c'était important. Et c'est ce que, les psalmistes faisaient aussi. Et c'est ce que Christ a fait à la croix aussi. Il a tout simplement exprimé à Dieu ce qu'il vivait. L'espérance. Mon cœur, entre le verset 4 et le verset 6, je ne sais pas combien de temps qui s'est passé. Des semaines, des mois, des années peut-être. Entre le temps qu'il demande une réponse à Dieu et que cet homme-là reçoive la réponse de Dieu, c'est le temps. Et parfois, on attend une réponse de Dieu et Dieu nous dit quelque part, tu vas avoir une réponse. Prends le temps. L'espérance qui détruit le désespoir. Dans le psaume 22, qu'on ne lira pas, on voit un homme, je vous exhorte à le lire chez vous et à y retrouver sinon, un homme qui cherche jour et nuit. Un homme qui se rappelle le passé du verset 4 jusqu'au verset 6. Complètement désorienté, complètement une mauvaise vision de ce qu'il est. Un ver, pas un homme. Je suis un ver de terre, pas un homme. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'il voit. Et parfois, la souffrance nous fait rater la réalité. Ce n'est pas vrai ce que tu penses, ce que tu vis. Ce que tu vis, c'est autre chose. Exprime à Dieu ce que tu vis. « Seigneur, voici comment je me sens. » Et mets ton espérance en Dieu. Mets toute ton espérance en Dieu. Et l'espérance qui va détruire le désespoir. Encore là, c'est un psaume qui doit être exprimé verbalement. Et nous réalisons bien des choses. L'amour, dans le psaume 113, l'amour qui va vers la solitude. On sait quel dommage peut faire la solitude dans nos vies. Et parfois, s'approcher d'un autre est tout notre bien. Le psalmiste ici, dans le psaume 113, envie la situation du méchant. Et il voit comment est-ce que le méchant, il prospère, il grandit. Puis il dit à quelque part, c'est injuste. C'est injuste que lui, qui ne t'occupe pas en toi, qui vit des choses merveilleuses. Mais au verset 16 jusqu'au verset 22, il retrouve le sens de la réalité. Il dit à quelque part, « Oui, mais lui aussi, il va mourir. Et lui aussi, il va être devant toi un jour. Comme moi, je vais être devant toi. » Et il réalise du verset 23 jusqu'au 28 que son bien est en Dieu, qu'il est son partage pour toujours. Il ne sera jamais seul. Il va toujours avoir Dieu dans sa vie. Et encore là, c'est un psaume qui est exprimé verbalement. Ça a une importance. Ça met nos sens à notre service. On réalise autre chose que notre cœur vit en lisant les psaumes à haute voix. Ces hommes que l'on a lus, qui est David, qui est Paul, qui est Jésus, qui est tous ces hommes-là, ces hommes ont eu les mêmes souffrances que nous, les mêmes fardeaux que chacun d'entre nous, que nous avons trouvé, et ils ont trouvé leur solution en mettant leur confiance, leur vision d'avenir et leur espoir en Dieu et en Dieu seul. Vous vous rappelez le premier verset, 1 Corinthiens 10, 13, qui dit à quelque part que le moyen de s'en sortir, je viens de vous donner le moyen et le seul moyen de s'en sortir afin que l'on puisse se supporter. Mettre notre vie entre les mains de Dieu et lui faire confiance, même dans la souffrance. Exprimez de vive voix les sentiments que vous avez. Colère, injustice. C'est injuste, Seigneur, ce que je vis. Se rappeler les bienfaits, les bénédictions que Dieu a pour nous. Demandez le secours de Dieu avec foi et contentement. Glorifiez et honorez Dieu pour ce qu'il est. Et finalement, tout cela devrait être dit à haute voix lorsque vous souffrez, dans l'intimité avec votre Seigneur. Plus vous connaîtrez les psaumes, plus vous aurez à la mémoire la délivrance que Dieu a pour vous. Pour celui qui souffre, les psaumes font deux choses. Ils montrent ce que Dieu, que Dieu connaît celui qui souffre, et deuxièmement, il donne le chemin pour s'en sortir, de la confiance en Dieu. Je demanderai aux anciens de venir en avant, s'il vous plaît. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que les personnes, puis Michel aussi, les personnes, vous aviez à attendre la fin de la prédication, c'est la fin de la prédication. Et si vous avez un fardeau, petit, léger pour vous, mais vous avez à goût, vous avez dit, vous voulez à quelque part mettre ça entre les mains d'un ancien, avec prix, qu'un ancien prie avec vous pour cela. Aujourd'hui, c'est juste les anciens. Et je vous exhorte à venir les trouver, moi compris, pour pouvoir prier avec vous sur votre fardeau. Peut-être que personne ne le sait, ce fardeau-là, mais ça va être vraiment traité dans l'intimité. Et les anciens veulent prier avec vous. Et on va terminer par la prière. Merci, Seigneur. Merci infiniment pour nous avoir mis une parole, une belle parole, une parole sincère, une parole, Seigneur, qui vient nous chercher, qui vient nous emmener où est-ce que tu veux que l'on soit. Je te remercie pour ta présence, pour le fait, Seigneur, que nous soyons tous ensemble à pouvoir supporter les fardeaux. Donne-nous, Seigneur, d'être les uns pour les autres, à porter les fardeaux des uns et des autres. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir trouver la personne qui va être capable de nous comprendre dans ce qu'on va avoir à vivre, dans ce que nous vivons. Et nous voulons tout cela, Seigneur, le faire pour que tu sois glorifié et honoré et pour que l'Assemblée soit une avec toi par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.